Bon, dans les précédentes émissions, nous avons vu toute une série d'anomalies, de dysfonctions de l'économie et de l'argent tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va peut-être, dans cette émission, essayer de résumer d'une part un peu tout cela et puis voir un peu dans quelle direction on pourrait aller à partir de là. Tout d'abord, il faut peut-être voir dans quelle solution, entre guillemets, dans quel programme de sortie de la crise on se trouve aujourd'hui, en résumé. Et deuxièmement, voir si il y a une autre solution qui est proposée actuellement. Est-ce que la gauche, par exemple, a une alternative ou non?
Alors, on a déjà parlé un peu de ça, peut-être sans le dire, mais quand on a parlé de concentration, de déréglementation, de concurrence et de tous ces éléments qui constituent le programme actuellement mis en œuvre par différents gouvernements des pays industrialisés du Nord, tout ceci fait que la droite, disons, c'est une mauvaise définition, mais prenons ce terme simplificateur, la droite, qu'elle soit de Reagan, de Thatcher ou de Chirac ou de Barr, cette droite, en réalité, a proposé quelque chose d'excessivement simple. Même si souvent elle le dit de façon compliquée pour que ça apparaisse peut-être plus technique ou plus scientifique même, mais la logique de ces propositions est extrêmement simple. Il s'agit simplement de redonner à la concurrence entre producteurs, entre consommateurs, tout son sens et toute sa dynamique pour que les moins bons périssent, soient vaincus par les concurrents et que les meilleurs s'affirment. Donc, c'est un programme qui n'a rien de neuf ni de révolutionnaire dans la mesure où on retrouve là des notions qui avaient été mises en avant au XIXe siècle lors du décollage du capitalisme industriel dans nos pays. Cela signifie quelque chose de très important, c'est que d'une part, les tenants du capital, les possédants, n'ont à proposer que des techniques anciennes dont on peut a priori se dire qu'elles ne sont pas forcément adéquates à la situation nouvelle, puisque les choses changent et que l'histoire généralement ne se répète pas dans les mêmes termes. Ce qui indique a priori une relative faiblesse idéologique de la proposition de la droite, des possédants du capital. Il y a cet élément-là. Et puis l'autre élément, c'est que la politique qui nous est imposée marque notre vie quotidienne de façon considérable. Donc nous en sommes tous touchés. Le fait que ces gouvernements proposent l'austérité, la lutte contre l'inflation et des mesures de ce genre ne sont pas du tout neutres quant à nos conditions de vie quotidienne, notamment quant à nos revenus, quant au loyer que nous devons payer pour notre appartement, quant au prix que nous devons payer pour acheter les biens de consommation essentiels, etc. Ce que j'aimerais dire, surtout, c'est que le fondement de ce programme de droite est donc la capacité concurrentielle de tout un chacun d'imposer le produit qu'il fabrique comme meilleur, eu égard aux produits similaires fabriqués par le voisin. Ce qui fait que, et ça vous pouvez le vérifier tous les jours dans les journaux, ce qui fait que on cherche à faire en sorte que l'économie de chaque pays pris comme un ménage, si vous voulez, on pourrait faire la relation entre ménage d'un individu, de son conjoint et de ses enfants, et puis le ménage constitué par une nation, la Suisse, la France, l'Italie, etc. Eh bien, il faut que le ménage national gagnent plus que ce qu'ils dépensent, d'après les bonnes théories qui nous sont servies aujourd'hui. Or, gagner plus que ce qu'on dépense, ça veut dire, toujours en simplifiant, exporter plus que l'on importe. Alors, c'est très rigolo de se laisser dire des choses pareilles, parce que il y a une impossibilité logique à ce schéma. C'est que, fatalement, dans un monde qui est fini, et notre monde est fini, il ne faut pas l'oublier, on peut dénombrer les pays qui constituent la planète, on peut dénombrer les producteurs, tout ça n'est pas de l'ordre de l'infini, il est de l'ordre du fini. Si l'un ou l'autre des acteurs gagne plus que ce qu'il dépense, ce sera obligatoirement aux dépens de d'autres qui, eux, pour que l'équilibre soit d'une façon ou d'une autre atteint, devront à ce moment-là s'endetter pour payer les exportations excédentaires des meilleurs concurrents.
Les fameux jeux à somme nulle, donc.
C'est les fameux jeux à somme nulle, tout à fait. Alors, ceci est d'autant plus visible aujourd'hui que la croissance n'arrive pas à redémarrer. Dans les années 60 et même au début des années 70, la croissance de tout, non seulement de la production, mais aussi des prix, et là il y aurait beaucoup à dire sur l'inflation et la capacité de camouflage que l'inflation a sur les phénomènes économiques, mais ces phénomènes d'inflation et de croissance permettaient de camoufler ces inégalités entre bons concurrents et mauvais concurrents. Aujourd'hui, ça éclate aux yeux à tel point que les États-Unis, pour ne pas parler de quelqu'un qui n'est pas tout à fait faible ni petit, se mettent à genoux devant le Japon et l'Allemagne fédérale pour que ces deux pays cessent d'accumuler des excédents commerciaux tels qu'ils les accumulent aujourd'hui. Donc ça veut vraiment dire quelque chose d'assez important. La France, d'ailleurs, ne cesse de pleurer de la même façon que tant que l'Allemagne et le Japon auront des excédents commerciaux, seront tellement compétitifs sur le marché mondial, la France ne pourra jamais reconquérir ses parts de marché. La Suisse ne dit pas autre chose, même si elle est plus discrète finalement, mais elle vise à mettre son industrie en situation davantage compétitive pour retrouver des positions sur le marché mondial, et chaque pays fait pareil.
Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très simple et très important qu'on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre. Effectivement, si tous les États, on dit à tous les États d'exporter plus qu'ils importent, c'est une absurdité. Et c'est l'absurdité qu'on voit l'FMI qui fait le tour des pays en voie de développement, imposant des programmes d'austérité, proposant des industries de l'armement ou de n'importe quoi au Brésil, en Argentine, etc. En fait, je crois que la raison est assez simple, c'est qu'en fait, l'FMI, c'est le démarcheur, l'huissier de toute une série d'intérêts privés, les grandes banques occidentales, qui, eux, veulent voir le retour sur leur fric, le fric qu'ils ont prêté à ces pays. Donc, ils veulent que cet argent sorte. Et puis, c'est un programme complètement anarchiste, dans le mauvais sens du terme, enfin, chaotique, qui cherche simplement à ce qu'un maximum de cet argent rentre de tous ces pays, mais qui n'a aucun avenir. Puis je pense que c'est important que tu aies insisté là-dessus, pour qu'on voit qu'effectivement, il n'y a pas un programme de sortie qui est valable maintenant, pour la droite, en tout cas pour moi.
Mais il y a une sortie, c'est le marché qui est en train d'évoluer dans ce sens. Cette énorme concurrence dont parlait Jean-Noël, c'est bien vrai, il y a trop de production, il y a trop de compétiteurs, il y a trop de produits, il y a trop peu de gens qui achètent par rapport à ces produits. Donc la réaction des marchés se fait dans le sens d'une concentration qui est à la base de cette vague de prise de contrôle de société à niveau transnational. Concentration dont le but exclusif, c'est de faire disparaître la concurrence. Et parallèlement et complémentairement à cette vague de concentration entre sociétés transnationales, parfois objectivement concurrentes, il y a une identification de plus en plus étroite entre la grande industrie qui se concentre et l'État qui va la protéger sur les marchés internationaux. Car on n'est plus au niveau des États d'antan, mais on est au niveau des grandes régions économiques telles que les États-Unis du Nord, qui incluent le Canada, l'Amérique centrale et les Caraïbes, qui inclut l'Europe entière, qui inclut l'Union soviétique avec ses pays du Comecon, qui inclut le Japon et sa sphère de prospérité en Asie, etc. Donc, ces grandes entreprises se réunissant après avoir littéralement dévoré la concurrence, ne se suffisent pas elles-mêmes non plus, et elles cherchent l'appui de l'État qui, lui, a été renouvelé. D'où la fameuse signification de la déréglementation. On déréglemente ce qui gêne pour pouvoir permettre à ces entreprises de mieux se marier à un État qui va les représenter, les protéger. Alors, cette protection de l'État se fait de plusieurs manières. D'abord, de manière protectionniste. On assure que certains marchés soient réservés à ces grandes entreprises multinationales à l'intérieur du marché commun, par exemple. Et ensuite, on s'assure que l'État recommence à jouer son rôle traditionnel. Le nouvel État ainsi déréglementé puisse à nouveau fournir des contrats sur large échelle, des contrats de recherche, des contrats de grands travaux publics, etc. Donc, quelques exemples sont le tunnel sous la Manche, par exemple. Donc, quelques autres exemples sont les programmes Esprit de recherche commune aux États du marché commun, qui, comme par hasard, ont été alloués presque tous à la grande industrie. Donc, d'autres exemples sont les programmes de fabrication commune d'appareils militaires, et ainsi de suite. Donc, en fait, le marché, et là, c'est là le problème, le marché est en train de dicter des solutions qui sont aussi bien de droite que de gauche, parce qu'on voit que les gouvernements au pouvoir actuellement jouent toujours le même jeu dans le même sens, c'est-à-dire que il n'y a pas, au niveau idéologique, une différence entre ceux qui sont au pouvoir et se disent de gauche et ceux qui sont au pouvoir et se disent de droite, dès lors qu'il s'agit de favoriser ce genre d'évolution. Tout cela amène des concentrations aussi au niveau politique, à des formes à des structures de pouvoir très autoritaires. Et on avait mentionné il y a quelques émissions en arrière que l'expression typique de ces formes autoritaires et de ces formes de concentration économique très avancées sont au niveau monétaire, les étalons monétaires, dont on reparle encore aujourd'hui. L'étalon monétaire, que ce soit avec l'or ou les matières premières, est l'expression financière de cette tendance vers la concentration du pouvoir économique politique. Alors, quelle est l'alternative à ça?
Tu disais tout à l'heure, avant qu'on commence, tu as évoqué le terme de national-socialisme aussi, pour dire que, en fait, c'est aussi la forme type de ce type d'État et de ce type de collaboration avec l'industrie qui s'est manifestée lors de la dernière grande crise.
Malheureusement, oui, parce que dans ce rôle, l'État contente tout le monde. D'abord, il sauvegarde son pouvoir économique et politique, et surtout le pouvoir des bureaucraties qui le constituent, parce que la bureaucratie, c'est une force réelle avec laquelle il faut compter aujourd'hui de plus en plus, surtout s'il y a encore une autre crise économique. Ensuite, quand l'État commence à distribuer sa manne sous forme de travaux publics, les syndicats sont tout contents. Donc l'État, c'est un État socialiste qui fait du social. Et les grandes sociétés, les grands producteurs, les grands transformateurs industriels sont tout contents parce qu'ils reçoivent des commandes, que ce soit des autoroutes, des aéroports, des avions, des tunnels sous la Manche, n'importe quoi. Ce sont des commandes bien précises.
Je corrige là. L'État fait du social, mais il n'est pas socialiste.
C'est du social, mais tu sais, dans les journaux, on peut appeler ça, entre la différence entre social et socialisme, il n'y a que quatre lettres, alors c'est vite fait. Donc, à la limite, c'est un État corporatiste qui rassemble les intérêts de toute une série de catégories qui, elles, se trouvent acculées en absence de ce genre de travaux publics, de ce genre de commandes à l'industrie, etc. Alors, peut-être c'est un gros mot à prononcer, mais c'est un État corporatiste et qui est un État national-socialiste, ou social-nationaliste, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est peut-être le début d'une autre histoire.
Oui, le national-socialisme, effectivement, ça commence sur le côté socialisme. Mussolini fait ses autoroutes, Hitler aussi. Tout le monde trouve que c'est finalement pas si mal comme formule. Et puis ça finit côté nationalisme quand ces marchés ne suffisent plus et que ces différentes politiques national-socialistes, que ce soit ceux du Japon, des États-Unis, parce que finalement Roosevelt avait une politique semblable, démocratique, mais aussi de grands travaux, etc. Et puis quand ça ne suffit plus, y a une grande guerre. Et puis je pense qu'on voit aussi là qu'on n'en est pas si loin.
Oui, j'aimerais qu'on clarifie bien la notion d'État. Parce qu'on ne cesse de parler de l'État partout, tous les jours. Et la façon dont Ferruccio a introduit ça me semble excellente, dans la mesure où on voit bien que, première chose, l'État n'est pas une entité propre qui plane comme ça dans la nature, dans l'atmosphère ou dans la stratosphère. L'État n'est pas neutre, l'État n'est pas là par hasard, Tout ceci doit être très clairement dit parce qu'aujourd'hui, on croit souvent que l'État est le recours par lequel on peut encore s'opposer aux formes les plus absolues de la concurrence, donc aux formes qui sont dangereuses pour les individus ou qui dérangent les individus. Donc on va se réfugier dans l'aspect social ou des activités sociales de l'État, sous-entendu qui sont une antidote ou un contrepoids à ce trop-plein de concurrence ou de sauvagerie du marché. Or, il ne s'agit pas de ça du tout, du tout, du tout. Notamment, le fait que les nouvelles formes du marché actuel impliquent, comme l'a très bien dit Ferruccio, une alliance beaucoup plus stricte qu'avant entre les grands conglomérats industriels ou financiers, ou les deux, d'une part, et l'État, d'autre part, et que cette conjonction d'intérêts est beaucoup plus strictement gérée qu'elle ne l'était auparavant, montre bien que l'État, la puissance publique, est ce qu'il a toujours été d'ailleurs, quelles que soient ses formes d'existence, un compromis passé entre les différents acteurs sociaux dans un endroit donné, à un moment donné. Et que ce compromis tient compte de la puissance de chacun des acteurs et de sa capacité par conséquent à faire triompher ses intérêts et ce qu'il veut faire de l'État. Alors c'est tout à fait évident que les grands conglomérats financiers et industriels ont intérêt à ce que l'État fasse un peu du social pour que les déséquilibres au sein d'une collectivité ne soient pas tels qu'ils provoquent des remous ou même plus que des remous, des insurrections ou des désordres qui ne permettraient plus de faire fonctionner la machine économique. Donc, ce pourquoi l'État est censé exercer ses talents. Alors, cette manière de présenter l'État, j'imagine que chacun est bien conscient que c'est très exactement l'inverse de ce que prétendent les tenants de la gauche. Officiels ou enfin organisés dans les partis ou dans les syndicats qui historiquement ont représenté la gauche. Parce que précisément la gauche dit nous voulons plus d'État dans ce sens que l'État doit assurer la protection des individus les plus défavorisés ou les plus menacés et l'État doit contrebalancer les effets pervers du capitalisme, de la concurrence, des inégalités créées par cette concurrence et ce capitalisme. Donc, au fond, la gauche traditionnelle revendique l'État comme non capitaliste. Or, c'est pas vrai du tout. L'État n'est pas non capitaliste. Il fait partie de ce développement du capitalisme. Ce qui me faisait dire tout à l'heure que l'État même s'il fait du social, n'est pas socialiste pour autant. Il faut savoir quelle est la logique d'ensemble qui l'enserre et qui lui donne sa direction. Donc, si on pouvait se mettre d'accord sur cette définition-là de l'État, d'abord, ce qui est très grave, on en arrive à se poser des questions sur les notions de national-socialisme et de leur résurgence aujourd'hui. Et d'autre part, on en arrive à voir que, et c'est tout aussi inquiétant, et c'est lié d'ailleurs, la gauche n'a pas de programme à proposer. J'entends par là, pas de programme propre à proposer. Parce que si la gauche propose de renforcer l'État social, d'augmenter les prestations pour les vieux, pour les handicapés,
créer un revenu minimum.
de créer un revenu minimum, ce qui est en cours en France. Si la gauche demande ça, ce n'est que un certain nombre de palliatifs, heureux ou malheureux, là n'est pas le problème d'ailleurs. Ce ne sont qu'un certain nombre de palliatifs par rapport à une situation fondamentale qui est celle du développement capitaliste, mais qui ne fait pas intervenir l'intérêt propre des travailleurs tel que la gauche a toujours eu, je crois, pour mission de représenter. Ce qui fait que, se réfugiant dans l'État, la gauche s'y perd, en réalité. Et pour moi, elle montre, en se réclamant de cette idéologie-là, elle montre qu'elle n'en a plus d'idéologie. Ou plus exactement, qu'elle a, subrepticement et sans le dire, accepté l'idéologie bourgeoise de la concurrence, de l'austérité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que le gouvernement, le deuxième gouvernement Mauroy, puis le gouvernement Fabius en France avait fait à la fin des gouvernements socialistes. J'imagine que le gouvernement Rocard actuel va s'élancer gaiement dans les mêmes brisées. Il n'est que de voir ce qu'ont fait les gouvernements sociaux-démocrates en Allemagne, ce que font les gouvernements sociaux-démocrates dans les pays nordiques européens, pour savoir que la politique de ces gouvernements socialistes ou sociaux-démocrates est une politique tout à fait conforme aux intérêts du capital.
En Espagne, González est en train de privatiser les grandes entreprises d'État, et notamment parce qu'il trouve que c'est des foyers de l'insubordination ouvrière. C'est tout dire. Hein.
Alors, je crois que c'est très important d'avoir redressé cette image de l'État, parce que ce faisant, on voit plus clairement où on se trouve dans le paysage idéologique. La droite n'a que de vieilles recettes à nous proposer pour sortir d'une crise qui est pourtant nouvelle. La gauche, elle, n'a aucune recette à proposer, et par conséquent, il va bien s'agir de faire quelque chose, néanmoins.
Non, c'est pour ça que je trouve que quand on parle de questions comme celles que nous essayons de discuter maintenant, on arrive très vite dans un paysage que moi je caractériserais de tragique, dans le sens que on est pris dans un projet qui est tout puissant, absurde, mais qui s'impose à nous. Des contre-projets, il n'y en a aucun de sérieux. Et chaque individu se retrouve vraiment face à sa propre impuissance, dès qu'il s'agit de dire « mais qu'est-ce qu'on veut faire de réellement autre ?» Et surtout maintenant, je pense, dans les années 80, parce que nous avons participé à une série de mouvements ou de débuts de mouvements qui ont eu certains petits succès. Je pense au mouvement de quartier, par exemple, ou bien enfin, d'autres mouvements auxquels nous avons participé aussi dans l'écologie. Mais on s'est heurté à une logique tellement puissante que beaucoup de gens se sont trouvés dispersés, se sont détournés de la lutte en disant en fait, on n'a aucun projet sérieux. Moi, j'ai pas envie de vivre. De descendre à la rue à la petite semaine. Voilà.
Et tu as mis en évidence un problème fondamental, c'est que d'une part, tu as cette énorme concentration de pouvoir au sens le plus large du terme, non seulement économique, mais aussi de pouvoir de décision. Il y a un front compact de décideurs qui ont des stratégies bien précises, même s'il ne s'agit que de suivre et de favoriser le marché. Et d'autre part, tu as une énorme masse dispersée de gens qui ont envie de vivre tous les jours un peu mieux et qui n'ont pas de projet particulier à long terme, sauf celui de s'assurer dans le meilleur des cas un salaire et ainsi de suite. Alors le problème, il s'agit de savoir comment on peut mettre en face cette énorme concentration de pouvoir économique et de décision, d'une part, et d'autre part, cette énorme dispersion qui est, elle, négative en ce qui concerne la vue qu'on doit avoir sur son propre futur. Il faut pas non plus oublier que cette énorme concentration se traduit, par exemple, à un niveau très très pratique, par une extraordinaire concentration de l'information de la presse. Aujourd'hui, les groupes industriels et les groupes financiers sont en train de s'emparer de toute la presse mondiale. Il n'y a plus un groupe indépendant de presse qui puisse donner des opinions différentes. Donc la possession, le contrôle, la maîtrise de l'information est aussi un moyen extraordinaire de mouler les esprits dans une certaine direction, ce qui fait qu'à force de lire le même journal et regarder la même télévision, on raconte tous la même chose. Et c'est exactement ce qu'il faudrait pouvoir peut-être éviter en fournissant des alternatives. Il est question, par exemple, dans certains milieux, y compris celui-ci, de créer des journaux alternatifs, des journaux qui puissent rassembler des opinions diverses, non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays du tiers-monde, parce qu'il est nécessaire de proposer d'autres façons de voir la réalité. Bon, ça, c'est un moyen de communication qui doit toucher la plupart des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont accès qu'à une information directe, dirigée du haut, etc. C'est fondamental, par exemple, aussi, de vouloir recréer un contrôle direct de ses propres épargnes. Aujourd'hui, les épargnes confluent dans des associations d'ordre public qui ont été chargées de gérer cette épargne. C'est une épargne forcée dont on ne dispose plus. Ma mémoire n'est pas aussi bonne que ça, mais je me rappelle qu'il y a 5-10 ans, dans un pays comme la Suisse, le taux d'épargne était d'environ 24-25% des revenus. De ce 24-25%, 15-17% c'était l'épargne volontaire et le reste c'était l'épargne forcée, c'est-à-dire le pilier, toutes sortes de piliers pour la vieillesse, toutes sortes de maladies. Aujourd'hui le rapport s'est inversé. L'épargne forcée est passée à peu près 16-17% du total et l'épargne volontaire à 5-6% du total, ce qui veut dire qu'on ne dispose même plus de sa propre épargne. Or, si on relibère l'épargne et on redonne aux gens le loisir, la liberté de gérer sa propre épargne, comme il le désire, quitte à se faire aider, mais ça c'est déjà une reprise, une décentralisation du pouvoir économique, comme celle qu'on peut obtenir en créant des structures alternatives d'information.
Voilà, avec cette intervention de Ferruccio, je crois qu'on est, arrivé à une phase un tout petit peu moins noire de notre discussion. On commence à au moins formuler quelques idées de ce qu'on peut faire pour sortir un peu de cette impuissance, de cette impasse profonde dans laquelle on se trouve. Je crois que la prochaine émission, on va en parler plus longuement, justement, de que faire dans cette situation.
D'autant plus nécessaire que le grand danger quand on parle de ces questions-là, c'est d'être un peu comme dans les contes où la simple vision du monstre pétrifie les héros. On pourrait continuer à parler longuement des impasses dans lesquelles on est et ruminer notre impuissance. Et je crois qu'il est vraiment fondamental qu'à certains moments, ayant enfin une certaine série de constatations, soit capable de dire voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour développer notre autonomie, pour développer notre vie, notre capacité de vouloir, de s'unir avec d'autres gens pour faire et avoir la vie qu'on veut.
Donc, lors de la dernière émission, on avait conclu en proposant un certain nombre d'alternatives, parmi lesquelles un plus ample accès à une information alternative ou indépendante, et éventuellement une meilleure distribution ou redistribution de l'épargne qui aurait dû redevenir, disons, propriété des épargnants et pas des institutions de l'État. Dans ce contexte se situait la tendance vers la concentration du pouvoir politique et économique dont on parlait dans la dernière émission et la tendance à la concentration aussi à l'identification de plus en plus étroite entre les grandes sociétés, les grandes corporations et les nouveaux États issus de cette fameuse déréglementation dont il était question dans notre émission précédente. Or, on en était arrivé au point d'envisager des solutions alternatives, s'il y en avait, et on avait critiqué aussi la position des syndicats qui, eux, d'après nos amis, n'avaient pas de solution, n'avaient pas de philosophie à cet égard. On était arrivé à la conclusion que, dans plusieurs cas, la politique de droite et la soi-disant politique de gauche se ressemblaient très étroitement. Comme cela revient presque à dire que, en fait, c'est la situation objective qui impose certaines solutions indépendamment des idéologies. Alors, il s'agit maintenant de voir si tout bonnement ou très simplement, il y a des alternatives à cette tendance vers cette énorme concentration des pouvoirs économiques, politiques, militaires et culturels et technologiques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple très concret de concentration, il y a quelques sociétés de presse internationales qui concentrent la plupart de la presse technique et scientifique. Donc il y a déjà un monopole au niveau de la presse scientifique et technologique, surtout anglo-saxon. Donc comment peut-on faire pour s'en tirer de cette situation qui devient très dangereuse parce que cela veut dire massification des idées, ça veut dire uniformisation des modes de pensée, ça veut dire obéissance à un credo unique qui est aujourd'hui du moins d'origine anglo-saxonne.
Bon, ces choses que tu proposes, il me semble qu'ils font partie de mesures immédiates et nécessaires pour commencer quelque part, parce qu'il faut bien commencer quelque part. On pourrait en citer d'autres, par exemple que les gens trouvent des structures, qu'elles soient syndicales ou autres, ou d'associations, pour réfléchir à la production, réfléchir à ce qu'ils font dans leur travail et ne pas accepter de faire n'importe quoi simplement parce que c'est un salaire, mais se dire, mais au fond, est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Enfin, oser penser ça. La seule exemple que je sais, que je connais où ça a été fait en grand, c'était en Pologne par Solidarność. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas même dans des pays libres, hein. Et puis un autre exemple, c'est la réflexion ou l'organisation sur ce qu'on consomme. Puis là, je pense qu'il y a des débuts avec les sociétés de consommateurs ou de consommatrices, mais qu'il faudrait porter beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a des choses comme ça à court terme, ou à court terme, des points de départ d'une réflexion et d'une action, surtout, où tout le monde pourrait participer. Mais je pense en même temps que, comme on a très bien vu, quand on a vu que la droite proposait une solution de simplement de compétition et de croissance, encore une fois, des monopoles, qui est une solution vieillotte et qui ne promet rien de bon, que la gauche propose la même chose avec un peu de mauvaise conscience, un petit peu de social. Donc ça veut dire que ce n'est pas qu'avec un peu d'information, un peu d'auto-organisation qu'on va s'en sortir. Ces débuts, ils doivent déboucher vraiment sur une mise en question assez radicale, justement, de toute la structure de notre société. Ce n'est pas qu'il nous faut, par exemple, ton exemple de l'épargne. Effectivement, si les gens c'est mieux si l'épargne n'était pas forcée, c'est un minimum de liberté pour les gens, mais dans la structure actuelle, qu'est-ce qu'ils en feraient? Bon, en fait, ils auraient le choix entre le dépenser tout de suite et puis l'investir dans un monopole quelconque, enfin dans un énorme machin. Il n'y a pas actuellement la possibilité dans l'économie qu'on connaît, ou très très peu, de trouver une autre façon d'investir son épargne où ils auraient vraiment un contrôle. Bon, il y a quelques petits exemples alternatifs, on en connaît, je veux dire, de coopératives, de culture biologique, je ne sais pas quoi, mais disons, on sait bien que les structures actuelles de la rente foncière, du crédit, etc., tendent à éliminer justement tout sauf les grands. Donc, c'est vers une remise en cause fondamentale qu'il faut aller. Il faut peut-être qu'on essaye de lancer quelques éléments de critique fondamentale, d'alternative, quelques propositions qui ont été faites de quelque chose de vraiment radicalement différent qui pourrait aboutir à un autre type de fonctionnement économique.
Oui, moi j'estime que la première chose à faire, c'est que tout le monde, tout un chacun, puisse avoir les instruments, la clé pour comprendre ce qui se passe. Et là, on en revient à un problème fondamental qui est négligé surtout du côté syndical. Si les syndicats pouvaient poursuivre un but fondamental dans leur politique de recrutement et de développement des idées, ce serait bien celui de pousser vers l'éducation des membres et des gens en général, et vers un certain type d'éducation. Car éducation, cela veut dire aussi comprendre ce qui se passe autour de soi et en soi-même. Alors, donc l'éducation, c'est fournir la clé pour comprendre ce qui se passe. À partir de la compréhension des phénomènes, peut-être subjective, mais enfin, c'est toujours ça, on peut quand même commencer à envisager des solutions à moyen long terme, mais stratégiques et contingentes, qui puissent offrir des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'insiste encore sur le fait qu'aujourd'hui, on ne traite pas suffisamment du problème de l'éducation. En Italie, aujourd'hui, il y a des grèves très violentes sur ce problème, ce qui montre comment, en Italie, et ce ne sont pas malheureusement les syndicats qui font la grève, les gens communs, les gens de tous les jours ont compris quel est l'enjeu et quel est l'enjeu à travers l'éducation qui manque, à travers l'éducation qui n'est pas fournie aux gens pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Donc j'insiste là-dessus pour qu'on reprenne un peu ce thème de l'éducation. Il faut faire attention parce que l'éducation, c'est aussi quelque chose de très biaisé. Ça dépend comment on l'obtient, comment on la met en marche, comment on l'utilise. Mais quand même, il faut en discuter.
Sur beaucoup d'autres choses.
Je vais essayer d'être un peu provocateur en nous demandant si, autour de cette table, on peut se mettre d'accord sur le fait que nous n'avons strictement rien de global à proposer comme vie alternative. Parce que je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Depuis le début de cette émission, on est en train de parler d'un certain nombre de voies et moyens qui nous permettraient de réagir, en tout cas, contre les méfaits les plus évidents qu'on a pu déceler du développement actuel du capitalisme. Et que on a bien dit que ce développement avait finalement sur le plan culturel un aspect de standardisation, d'uniformisation et de massification qui rend l'affaire, comme Nicolas disait la fois précédente, qui rend l'affaire tragique. Il y a quelque chose de profondément tragique à voir que nous sommes des individus, mais en même temps des pions, et que, quelles que soient les réactions que nous tentons d'avoir sur le plan du contrôle de ce que nous consommons, sur le plan des actions de quartier, ou sur le logement, sur le plan écologique, etc., quelles que soient nos désirs d'avoir une relation plus vraie, non seulement avec nos voisins, mais avec le monde qui nous environne, on se bat contre quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça, qui est un système. Alors, j'aimerais, pour clarifier le débat qu'on a maintenant, parce que sinon ça risque de partir dans tous les sens, vous demander si vous êtes d'accord de dire, au minimum, après on verra ce qu'on peut dire d'autre, que nous n'avons pas d'alternative globale à proposer, et que toutes les pistes de recherche sur lesquelles nous discutons maintenant, sur une réappropriation de la culture, de l'information, et même des circuits financiers, si on parle de l'épargne, par exemple, que ces pistes de réappropriation individuelle ou collective, pourquoi pas, ne sont que des pistes de recherche qui, à l'heure actuelle, ne peuvent plus être, enfin, ne doivent pas être considérées comme faisant partie d'un projet à l'identique de ce qu'on appelait projet dans les années 60 ou 70, où effectivement, il y avait un projet, il y avait des porteurs de projets, et ces porteurs de projets se réunissaient en associations, en groupements, en partis, alors qu'aujourd'hui, ceci, me semble-t-il, et il faut que nous soyons très clairs là-dessus, ceci a fait long feu, et qu'il ne s'agit pas du tout de recommencer dans une direction analogue. Que par conséquent, nous sommes beaucoup plus modestes, et que nous essayons d'agiter un certain nombre d'idées qui nous permettent d'échapper à ce carcan qui, d'un système abstrait extrêmement puissant qui nous tomberait sur la tête et qui nous empêcherait de respirer et de vivre.
En tout cas, je suis tout à fait d'accord.
Tu as parlé justement du fait en fait qu'on veut pas se réunir sur un grand projet abstrait. Certains ont dit que mai 68, justement, une des fonctions qu'il a eues, c'était de sonner le glas de toutes ces grandes propositions du passé. Moi, j'ai l'impression que la recherche qu'il faut faire, elle devrait avoir deux aspects, forcément. D'une part, un aspect toujours pratique où, à partir du fait qu'on est consommateur, producteur, locataire, etc., on essaye de réfléchir à cette situation et de faire quelques petites actions, même très symboliques, pour indiquer une direction et essayer de rassembler des gens qui seraient d'accord d'aller ensemble, d'une part. Mais d'autre part, comme tous ces petits essais se heurtent au fait qu'il faut quand même poser les problèmes globalement, parce qu'on se heurte chaque fois à la globalité du système, parallèlement, il faut aussi avoir une réflexion un peu plus centrale sur les grands axes du système, sur le fonctionnement même de l'argent, etc. Et que ces deux aspects-là doivent s'éclairer les uns les autres. Et on ne peut pas dire qu'au départ, on aura une idée, voilà, une image de la société vers laquelle on va. C'est plutôt à mesure qu'on marche sur ce chemin que cette image se clarifie à travers l'action et la discussion. Et quand on parle maintenant, je reprends l'exemple que tu donnais sur l'éducation. Moi, justement, ce serait justement un processus profondément éducatif. Et toute réflexion sur l'école, notamment, elle devrait partir de là. Et moi, on est dans une situation où l'école est aux mains de l'État. Ce qui, d'une part, est bien, parce qu'en fait, c'est ce qui nous a servi à ravir l'école des mains de l'Église, où elle était avant. Et puis, il y aurait des mouvements qui voudraient revenir en arrière par rapport à ça. C'est bien que l'école soit aux mains de l'État, d'une part, mais d'autre part, on pourrait se demander pourquoi l'école devrait être aux mains de l'État et nous échapper de cette manière-là. Parce que pourquoi l'État pourrait prendre des décisions d'ordre culturel, prendre des responsabilités de ce genre-là? Est-ce que ce ne serait pas des responsabilités à concevoir différemment?
C'est un bon exemple, celui de l'école, parce que ça symbolise bien cette contradiction qu'on va retrouver partout, dans tous les domaines, entre les formes actuellement centralisées et standardisées de fonctionnement des diverses institutions, l'école par exemple, entre cette uniformisation d'une part et d'autre part le désir, appelons-le comme ça, le désir des gens de se trouver plus près de quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et par conséquent, le désir des gens d'être confrontés à de petites institutions, dans la mesure du possible décentralisées, et qui, si elles sont décentralisées, peuvent même éventuellement être gérées par la communauté locale décentralisée. Or, cette contradiction, elle va... actuellement, elle n'est pas violente, il me semble pas. C'est-à-dire que les personnes, les groupes de personnes qui revendiquent la décentralisation sont tellement marginaux que leur pouvoir est relativement médiocre et que par conséquent, il ne met pas en cause le pouvoir dominant des grandes institutions étatiques. Mais à supposer que divers mouvements alternatifs se développent, à gauche, à droite, on pourrait supposer et on pourrait s'attendre à ce que cette opposition devienne à ce moment-là socialement beaucoup plus dynamique et qu'elle provoque des heurts, et des heurts qui pourraient avoir des prolongements politiques. Ce qui me semble aujourd'hui, c'est que l'attitude est encore une attitude de démission vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que pour l'école, revenons à l'école, on se laisse enfiler l'école telle que l'État nous la propose de manière uniforme tout à travers le pays. Étant donné que c'est une institution énorme, l'école, qu'elle est garantie par la loi, et que si elle est garantie par la loi, elle est donc garantie par le consensus social du pays, elle a une histoire qu'on ne peut pas bouger comme ça en 5 minutes, l'individu face à l'école, que ce soit l'élève ou que ce soit le parent d'élève, aura des réactions simplement de passivité ou de défaitisme et dira « mais moi, tout seul, vis-à-vis de ce monstre, je suis incapable de faire bouger cette machine. » Et j'ai l'impression que c'est ce qui se manifeste encore aujourd'hui de façon extrêmement majoritaire. On observe que le système éducatif reproduit les anciennes divisions sociales, les anciennes divisions culturelles, que les enfants de milieux culturellement favorisés réussissent bien à l'école et que les enfants de milieux culturellement défavorisés réussissent mal à l'école, tout cela est bien connu. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, des statistiques qui ont été publiées. Cela ne fait aucun doute. Et pourtant, l'école reste comme ça. Et quand il y a, par exemple, une élection ou une votation populaire sur l'école, les gens votent de manière très sympathique pour ce système fondamentalement injuste. Alors, il y a là une contradiction que je trouve reliée à cet aspect du tragique qu'on a dit tout à l'heure. C'est que on sait les limites de l'école d'aujourd'hui, on les connaît, mais pour l'instant, on n'est pas armé et on n'a pas les armes pour pouvoir empoigner le problème de façon active.
Je veux juste faire un petit point d'ordre dans le sens que je ne sais pas si on quitte le sujet ou si on a l'apparence de quitter le sujet, mais en tout cas, il me semble que pour l'auditeur, ce n'est pas évident pourquoi tout d'un coup on parle de l'école, de l'éducation. Le besoin de décentralisation, de pouvoir sur l'éducation, c'est une chose qu'on peut ressentir, que certains peuvent ressentir, mais le lien avec la crise économique, elle n'est vraiment pas évidente. Alors peut-être qu'on peut le rendre plus évidente, la démarche, le fil de la pensée que vous avez suivi.
La dernière fois, j'avais mis en évidence comment le problème fondamental dans une société comme celle-ci, qui concentre énormément de pouvoir aussi, de pouvoir de l'information, c'est d'être comprendre les enjeux. Comprendre les enjeux, ça veut dire aussi savoir qui fait quoi, comment et pourquoi. Alors, il est évident que très souvent, on ne sait pas qui fait quoi, comment et pourquoi, parce qu'on ne comprend pas. Alors, à la base des manques de compréhension, il y a très certainement un manque d'information, un manque d'interprétation d'information. Parce qu'on peut lire, mais on ne peut pas comprendre.
Donc la logique, c'est qu'il faut pouvoir mieux comprendre, et on n'en comprendra pas mieux avec une école qui est elle-même, qui n'est pas entre nos mains, qui nous est imposée.
Partons en général. Mieux comprendre, ça veut dire être mieux éduqué, savoir lire entre les lignes. Donc c'est un problème d'éducation. Alors, le problème d'éducation, c'est un problème qui est multiface. C'est-à-dire, quelle éducation? Bon, c'est pour ça qu'on a intérêt à ce point-là. Et qui s'approprie de quoi? Parce que l'éducation, c'est un phénomène très important. Alors, moi, je veux reprendre ce phénomène, parce que, disons, cette discussion, parce que je vois que tous les trois, tous les quatre, on est d'accord sur le fait que l'éducation, au sens large du terme, sans parler de quelle éducation, ça crée un consensus entre nous, et je pense que parmi les auditeurs aussi. Alors, moi, je veux faire une relation entre le problème de l'éducation, le problème de la formation au sens plus général du terme, parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation scolaire, c'est l'éducation aussi dans l'usine, dans la vie, chez les parents, etc., dans les associations de quartier, et le problème de l'information. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques d'éduquer et d'informer indépendamment et au-delà des circuits officiels. La technologie d'aujourd'hui, des ordinateurs, ce qu'on appelle le desktop publishing, la micro-informatique, la micro-édition, nous permet de faire des journaux de quartier, des journaux d'association, à des prix extrêmement réduits, qui peuvent être diffusés à des prix extrêmement réduits aussi, et qui peuvent être aussi remplis par des gens à des prix extrêmement réduits, et des gens, il y en aura toujours pour solliciter une intervention, pour écrire, etc. Donc, l'information, c'est tellement vrai que dans les pays communistes, ce qu'on le craint le plus, c'est justement l'information alternative. Et ce n'est pas par hasard que dans les pays communistes, on enregistre, on oblige les gens à enregistrer toutes les machines à écrire, toutes les machines à photocopier, et aujourd'hui aussi les ordinateurs personnels. C'est la preuve la plus évidente, par A plus B, qu'on peut créer une information alternative. Bon, il faut des moyens, mais pas aussi gros que ça. Il faut surtout une volonté et une culture, une opinion bien claire sur ce qu'on peut faire en alternative aux canaux officiels d'information, que ce soit des États, des grandes sociétés, etc.
Oui, il faut tout ça, mais il faut une autre chose encore plus, c'est du temps. Parce qu'il y a très très peu de gens qui sont assez privilégiés pour pouvoir se réunir pour discuter à Radio Zone 3 ou 4 sur les économies, et même réfléchir peut-être une ou deux heures pendant la semaine. Et puis ça, il me semble que c'est un autre axe qui est très directement relié à la crise. C'est justement, j'ai cet article par exemple du Monde d'il y a quelques jours qui parle de l'instauration du revenu minimum. Et qui dit très justement, c'est par un monsieur qui s'appelle Guy Aznar, qui a écrit un livre sur Tous à mi-temps. Je crois que j'ai pas lu le livre, mais je crois que le titre parle de lui-même, et qui dit le salaire minimum, le revenu minimum, c'est très bien, mais la charité, c'est pas une idée très nouvelle. L'Église catholique le pratiquait déjà il y a des siècles. Et plus que penser à un revenu minimum,
moderne de la sous-population.
Exactement. Et puis plutôt qu'à un revenu minimum pour soutenir ceux qui flanchent complètement, et puis les autres tous à plein temps, pourquoi pas penser effectivement revendiquer vraiment que ce travail qui, de fait, avec l'automatisation, c'est absolument inéluctable. Il y en aura de moins en moins, que ce soit distribué sur tout le monde à mi-temps ou en tout cas à temps plus réduit. Pour que les gens aient le temps de reprendre en main leurs affaires, leur éducation, réfléchir. Parce que maintenant, quelqu'un qui travaille à plein temps, ce n'est vraiment pas possible. Hein. Je crois vraiment qu'il faut avoir une volonté hors du commun pour réfléchir pour un tout petit peu quand on fait un travail à plein temps.
Il y a là derrière, pas derrière le problème du travail à mi-temps, mais derrière ce que Ferruccio disait tout à l'heure, derrière le problème de l'avancée technologique qui permet une multiplication bon marché d'un certain nombre de moyens de contre-pouvoir, par exemple sur la formation, mais qui pourrait aussi être développé ailleurs, notamment le fait que des systèmes de production de biens informatisés ou micro-informatisés permettraient d'échapper à la production de masse pour permettre une production limitée prévue en fonction des caractéristiques d'un certain nombre de personnes ou d'un petit groupe. Donc de redonner à la production une dimension entre guillemets humaine, De même que ces moyens technologiques peuvent nous permettre éventuellement d'avoir accès à d'autres créneaux de la formation, de l'éducation, de l'information, etc. Alors tout ceci fait partie d'un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui, au fond, nous dit « mais vous vous inquiétez pas trop parce que aujourd'hui la situation n'est pas excellente, mais attendez, elle va devenir de mieux en mieux grâce à la micro-informatique ». Alors, ce que j'aimerais dire ici, et sur laquelle j'estime de nouveau qu'il faut être très clair, c'est que ces progrès, qui sont indéniables, ne sont pas à la portée de chacun. Comme Olivier le disait tout à l'heure, Olivier disait « il faut avoir du temps ». Moi, je dirais plutôt « il faut avoir du pouvoir ». Et c'est exactement la même chose pour ces nouvelles technologies que cela a été le cas pour les anciennes technologies ou les anciens instruments de travail, de production, de consommation, à partir du moment où ils existent, où on les a créés, où on les a développés, où on les a organisés, il se trouve et on observe que ceux qui les utilisent le plus sont ceux qui ont le plus de pouvoir et que ceux qui les utilisent le moins sont ceux qui ont le moins de pouvoir. Par conséquent, si il est bien vrai de dire que théoriquement, la micro-informatique nous permettrait d'avoir un petit journal de quartier, d'animer nos réunions de locataires, etc., etc. Chose tout à fait correcte. J'observe, moi, que cette micro-informatique est beaucoup plus massivement utilisée par les détenteurs de pouvoir, de capital, d'entreprise, etc., qui, eux, font des petits journaux d'entreprise pour intoxiquer les travailleurs et leur empêcher de penser par eux-mêmes, et des choses perverses de ce type-là, qui se passent dans des proportions incomparablement supérieures à ce qui se passe dans les mouvements alternatifs de quartier, d'écologie, ou des choses que nous connaissons.
Ça n'empêche pas que cette technologie, cette possibilité d'utiliser cette technologie existe. Exactement. Et ça n'empêche pas que depuis qu'on a inventé la presse écrite, la plupart des gens qui n'avaient jamais accès à un texte ou à un bouquin, et qui étaient d'ailleurs le monopole des moines et des gens de haute autorité, aujourd'hui peuvent lire des bouquins. Aujourd'hui, donc, on assiste à une autre étape dans le développement de la technologie qui met à disposition des gens des instruments dont ils peuvent faire le meilleur usage s'ils le désirent. Et on revient à un problème de briser un cercle vicieux. Si les gens qui ont le pouvoir utilisent mieux la technologie, c'est bien pour une raison, c'est qu'ils ont appris à l'utiliser. Ils ont appris à l'utiliser parce qu'ils ont les moyens culturels de l'utiliser. Et les moyens culturels de l'utiliser, c'est un problème d'éducation à nouveau. Donc on tourne en rond aussi longtemps qu'on ne résout pas ce problème d'éducation. Le grand problème à résoudre, c'est celui de savoir quelle éducation pour quelle société. Alors là, c'est un problème idéologique pur. Donc il faudra faire attention dans une discussion quelconque de ne pas parler éducation tout court, juste pour le goût d'en parler. Mais il faudra parler de quel genre d'éducation pour quel genre de société, pour nos enfants, pour le futur, pour l'année 2000, etc. Donc à mon avis, c'est une éducation qui doit être accessible au plus grand nombre, sans discrimination de revenus ou de classe. Alors c'est peut-être la seule chose qu'il faudrait venir rendre vraiment accessible à tout le monde, et qui soit optionnel, c'est-à-dire les gens peuvent décider eux-mêmes en fonction de leurs croyances et tout, et en laissant toute liberté aux autres de faire autant. Il n'est pas par hasard que des sociétés très évoluées comme celle japonaise, même si sur le plan social c'est pas si évolué que ça, les gens ont un niveau de culture extraordinairement élevé. Bon, si cela se traduit par des revenus aussi extraordinairement élevés, c'est peut-être un hasard, mais ce n'est pas le hasard. Ils ont une certaine relation, même si on veut être très matérialiste, entre niveau de culture et niveau de revenus. Donc si on a le choix, on peut aussi prétendre à créer des alternatives. Si on n'a pas le choix, donc on n'a pas cette culture pour faire le choix, on devient des esclaves. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est une réalité. On a des esclaves en cravate et en voiture, mais on aura de plus en plus d'esclaves. Et pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. C'est ça le drame fondamental. Donc, à mon avis, il faut que les gens comprennent de plus en plus ce qui se passe autour d'eux. Il faut leur donner la clé pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et il faut qu'une fois qu'ils aient cette clé, ils aient le choix de leur liberté. La liberté de choisir, c'est la liberté de comprendre. Et quand on comprend, on peut choisir, et vice-versa.
Ferruccio est décidément un optimiste incorrigible. Il nous dit « Éduquez-vous ou éduquons-nous et nous serons capables de comprendre la situation dans laquelle nous vivons et donc de faire des choix responsables. » Et si on prenait l'hypothèse inverse, qui dirait l'éducation, au lieu de nous permettre de comprendre la situation, nous enfonce dans la falsification, parce que c'est une éducation de classe qui est là pour ne pas nous permettre d'être conscients des choses, d'être responsables et d'être autonomes. Et s'il fallait, au contraire, recréer nos propres canaux d'éducation, notamment par la vie quotidienne, pour apprendre à connaître les choses.
Créer nos propres canaux, je pense que ça, pas seulement pour l'éducation, mais pour énormément de choses. Et on se trouve dans cette situation contradictoire que l'évolution incroyable de ces 50 dernières années a libéré un temps énorme, et que justement on a besoin d'un temps énorme pour pas seulement faire ce qu'on nous fait faire, mais justement s'organiser entre nous d'une autre façon. On a besoin de temps. Alors moi je trouve que la discussion, pour qu'elle avance, il faudrait qu'on arrive à dire beaucoup plus précisément ce que chacun de nous pourrait faire à partir de la situation concrète qu'il vit, soit en tant que producteur, soit en tant qu'habitant, soit en tant que consommateur. Il y a des choses qu'on peut réfléchir avec les gens qui sont dans la même situation. Il y a des petites actions qu'on peut faire qui indiquent des questions, une direction qu'on veut prendre. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme évidemment dans toutes ces petites luttes, on se heurte très vite à des questions globales qui nous dépassent complètement, d'où la situation tragique dans laquelle on est, il s'agit de oser formuler les questions qu'on estime, nous, les plus urgentes pour tous les mouvements. Et puis pour moi, parmi les questions les plus urgentes sur lesquelles on devrait avoir plus de clarté, c'est celle qui concerne le fonctionnement de l'argent, car on voit que l'argent dirige, on se heurte à la logique de l'argent dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'écologie, avec la croissance forcée, que ce soit dans le domaine du mouvement de la paix, avec la logique de l'armement, la folie de l'armement, que ce soit dans les mouvements de quartier, par rapport à la logique absurde du prix du terrain, etc. Donc ça, j'estime que c'est parmi les tâches absolument prioritaires d'avoir plus de clarté sur comment fonctionne l'argent.
Donc là, tu dis pratiquement, pour rationaliser un peu le problème, qu'il faudrait ramener la discussion de certains problèmes et leurs solutions éventuelles au niveau décentralisé des associations, par exemple, de quartiers, de villages, etc., comme c'était le cas dans le temps. C'est-à-dire, cela revient à dire démanteler un peu ces structures bureaucratiques qui commencent à venir omnipuissantes et omniprésentes et qui sont, au fond, le véhicule préféré de la massification des idées et de la solution à sens unique.
Ouais. Donc, ou plus concrètement, je m'excuse d'interrompre, ça voudrait dire que chacun d'entre nous doit se poser la question, à partir de sa situation concrète qu'il vit, à quoi il est appelé de faire concrètement, tant au niveau réflexion que de prendre des petites initiatives. Tu vois, par exemple, pour moi, j'ai dit que je m'intéressais aux questions sur le fonctionnement de l'argent. Ben ça consiste à être capable de réunir de la documentation et de promouvoir cette discussion dans tous les mouvements.
Bon, si vous êtes d'accord, en tout cas moi je serais d'accord que peut-être qu'on revienne sur ces questions de l'argent dans une ou quelques émissions encore.
Mais aussi sur le problème de l'éducation du point de vue concret, c'est-à-dire quelle éducation, c'est-à-dire.
Tout à fait.
Concrètement, puisque l'éducation c'est quelque chose de très biaisé, à la limite, il faut voir un peu quelle éducation nous convient pour quelle société.